Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à ce café littéraire qui va essayer d'imaginer des extraterrestres, où nous allons parler de ces extraterrestres en compagnie de plusieurs personnes. Nous avons tout à droite Sylvie Lainé, à ses côtés Christian Léourier, Jean-Claude Duniac ici, Farid Abdelwahab et pour finir Laurence Suner. Tout au bout, donc nous sommes encadrés de présence féminine au milieu. Voilà. Les extraterrestres, alors évidemment, c'est un vaste sujet hein, qui fait vraiment partie de la science-fiction. Il y a plusieurs façons de les imaginer. On en parle beaucoup au cinéma. Au cinéma, bien entendu, on les a souvent vus. Soit des personnages hostiles qui viennent pour envahir la Terre, soit plus récemment des personnages moins hostiles ou qui viennent avec d'autres intentions. La difficulté, c'est de savoir comment ils sont, comment on les représente. Je vais lire peut-être un extrait du livre de Laurence Suner.
Oui, on t'avait pas dit. Chaque fois qu'il lit un passage, tu enlèves un vêtement.
Il s'agit en fait de l'humanité qui a découvert une exoplanète sur laquelle la vie est possible et ils se rendent sur cette exoplanète qui s'appelle Gemma. Gemma. Gemma et ses formes de vie extrémophiles nichées au cœur de la glace et des sources volcaniques de son sous-sol. Gemma et son climat arctique, sa sécheresse, ses tempêtes, son intense rayonnement UV, Gemma et son couple de soleil. Mais surtout, Gemma et son troublant secret. Kobalski le devinait, Ambre Pasquier, bien que docteur en exobiologie, n'était pas venu ici dans ce simple but d'étudier les micro-organismes qu'abritait la planète. Son obsession, le directeur de la cosmothèque la lisait dans la noirceur de son regard, dans la crispation de ses traits, dans sa permanente impatience. Non, Ambre Pasquier brûlait d'un unique et ardent désir, celui de percer le mystère du Grand Arc et de ses mythiques constructions, les bâtisseurs. Le Grand Arc, une forme arachnéenne singulière, une architecture alambiquée, aussi inquiétante qu'élégante, clôturée de deux longues dents, les montants de l'arc, plongeant vers les plaines glacées de la planète. Une structure centrale hélicoïdale, enroulée sur elle-même dans une parodie d'infini, se dressant sur ses ergots en plein cœur de l'espace. Un jaillissement de pointes et de piquants, une profusion de courbes élastiques figées, une vision de cauchemar, tendineuse, organique, défiant la compréhension. En vérité, rien de moins qu'un vaisseau fantôme plus terrifiant que les vieux gréements des récits de pirates abandonnés au beau milieu d'un océan de nuit. Un Hollandais volant cosmique prêt à vomir son lot d'abominables spectres, immense, étrange, silencieux, tortueux, et obscur, terriblement obscur. Alors Laurence, nous voyons donc que l'humanité découvre un immense artefact extraterrestre. Ces extraterrestres, ils ont disparu.
Oui, dans le tome 1, ils ont disparu, effectivement, mais ils n'ont pas tout à fait disparu, bien sûr. Sinon, on n'a pas tome 2 et 3.
Donc, on ne va pas vous demander de décrire les extraterrestres, mais enfin, c'est une civilisation ancienne qui, et l'homme est confronté aux extraterrestres par le biais de vestiges, simplement.
Alors, en fait, un peu le thème du livre, c'est le problème de la communication. C'est un des thèmes du livre. Et justement, l'humanité donc, qui s'est installée sur Gemma, donc cette exoplanète, va petit à petit être confrontée justement à une civilisation qui a subi une évolution complètement différente de la nôtre, et où il n'y a pas de possibilité de langage commun, comme par exemple un langage mathématique ou scientifique. Et mais je ne peux pas trop en parler parce que c'est au cœur du tome 2 et du tome 3. C'est justement le problème de l'interprétation, comment on arrive à communiquer avec une civilisation qui subit une évolution complètement différente et qui utilise un langage qui n'est pas forcément un langage scientifique. Bien qu'une civilisation technologique, mais pas forcément avec un langage scientifique. Donc c'est un peu un des enjeux du bouquin.
Nous avons avec nous Farid Abdelwahab, qui est en quelque sorte un peu un historien des extraterrestres, puisqu'il est co-auteur d'une anthologie qui est ici, vous pouvez peut-être la montrer, dictionnaire des dictionnaires visuels des mondes extraterrestres. Et puis, j'aurais une question à poser. Est-ce que ça fait longtemps que les extraterrestres existent en littérature ?
En littérature, ça fait à peu près 2500 ans, on va dire. Nous, on a trouvé les premiers vestiges, on va dire, littéraires, c'est chez les Grecs atomistes, qui imaginent une possible vie extraterrestre. Donc ça reste au niveau de la pensée philosophique. Ensuite, ça a été aussi le dictionnaire a été l'objet aussi d'une recherche principalement sur l'iconographie, la façon dont on les a représentés. Là, par contre, c'est beaucoup plus tardif, puisque c'est au début du 19e que les extraterrestres prennent forme, on va dire, visuellement. Alors, il y a plusieurs couches dans l'histoire de la représentation littéraire et philosophique, et ensuite, il y a aussi des strates dans l'histoire de la représentation visuelle. Donc c'est assez compliqué, ça fait justement l'objet du dictionnaire. En attendant, c'est une vieille histoire, et en même temps, c'est une histoire qui est aussi totalement dépendante des conceptions cosmologiques. C'est-à-dire que si, à partir du moment où on pense l'univers comme étant un, comme c'est le cas chez Aristote, avec un géocentrisme, la Terre au centre de l'univers, cette unité-là, par exemple, va fermer le débat d'une certaine manière, puisque la question de la pluralité des mondes ne va pas se poser. À partir du moment où on passe à un système héliocentrique, ça commence à changer, la fenêtre commence à s'ouvrir sur la possibilité de systèmes, d'autres systèmes tels que le nôtre, etc. Donc c'est vrai que la question de leur présence et de leur histoire est liée aussi à la question de l'histoire de la métaphysique, de la philosophie, des sciences, de l'astronomie, tout un réseau comme ça de questionnements et de problématiques.
Merci. À quoi peuvent bien ressembler ces extraterrestres ? Par exemple, dans l'œuvre de Jean-Claude Duniac, je me souviens des animaux vils dans Étoiles mourantes. Est-ce que, vous voyez, les extraterrestres, ils ressemblent à quoi ?
J'en ai fait d'un certain nombre de sortes, mais c'est vrai que j'ai beaucoup imaginé d'animaux très vastes, très grands, vivants en plein espace et ne se posant sur les planètes que soit pour se reproduire, soit pour y mourir. Et les premiers sont apparus dans le Jeu des Sabliers, c'était des animaux temples qu'on élevait, il y avait des bergers qui les élevaient en plein espace, et ensuite on les faisait poser sur une planète où ils étaient détruits. Et par contre, leur squelette servait à construire des temples. C'est-à-dire qu'on avait pratiquement, c'était des animaux qui étaient grands comme des cathédrales, il faut imaginer Notre-Dame de Paris, et on faisait s'écraser l'animal, il y avait des espèces de frénésies religieuses où on allait le manger littéralement. Et il restait les eaux, et à partir de ces eaux-là, on s'en servait de pilier, on faisait une cathédrale. Donc pour moi, les extraterrestres, ça a toujours été soit très très gros, soit très très petit, et à la limite, ça relève du fantasme. Soit c'est une bestiole qu'on attrape, comme on attrape littéralement une maladie vénérienne, soit c'est au contraire quelque chose qui est tellement grand qu'on peut se promener dans ses allées, caresser ses murs, et avoir avec des rapports qui sont les rapports du gamin qui se dit dans son lit, en disant « cet espace est à moi ». Ça relève totalement du fantasme.
Ça ressemble un peu aussi au squelette de l'alien qu'on découvre dans Alien, en fait, le gigantisme.
Oui, mais les miens, ils sont gentils.
Alors, à propos de d'extraterrestres gentils, dans les yeux d'Elsa, Sylvie, l'aînée, Elsa n'est pas à proprement parler en extraterrestre, puisque c'est une femelle dauphin génétiquement modifiée. Mais cependant, les relations amoureuses qui se tissent entre un homme et Elsa, en partie, peuvent être vues comme des contacts entre espèces différentes. Est-ce que les extraterrestres sont parmi nous ?
Oui, sûrement. je suis un peu troublée parce que tu as choisi une nouvelle dans laquelle il n'y a pas d'extraterrestres, effectivement, alors que j'aurais pu t'en soumettre quelques-unes où il y en a de plus authentiques, si l'on peut dire.
Bon, c'est un signe de Seti, par exemple.
Par exemple. Je crois que Laurence a posé tout de suite la question qui est embêtante quand on essaie de les mettre en scène. C'est comment mettre en scène des extraterrestres qui sont intéressants, donc très différents, parce que s'ils nous ressemblent, s'il suffit de les imaginer avec des espèces de masques comme dans Star Trek ou dans, dans un certain nombre de séries télévisées qu'on connaît tous, s'il suffit de leur rajouter quelques ingrédients en coloré, en plastique et quelques crêtes pour avoir des extraterrestres, on ne va pas très loin. Donc il faut qu'ils soient très différents. Mais s'ils sont très différents, encore faut-il qu'on puisse faire des choses avec eux. S'ils sont vraiment trop différents, je ne sais pas exactement jusqu'où, enfin si je sais parce que j'ai lu, mais jusqu'où peut aller la communication entre des créatures immenses de la taille d'une cathédrale et des êtres humains. La disproportion est telle que ce n'est pas facile. Alors on se trouve quand même face à un défi un peu délicat. Il faut qu'ils soient très différents pour qu'ils soient intéressants et il faut qu'on puisse communiquer avec eux quand même parce que sinon on peut les décrire mais indépendamment de nous, ce qui est à la fois très difficile parce qu'on n'a pas les bons mots, on ne sait pas si on les imagine très différents, ils pensent autrement, ils ont d'autres concepts, d'autres sciences comme disait Laurence. Alors après on peut quand même faire plein de choses rigolotes. Moi j'ai imaginer une histoire dans laquelle on rentrait en contact avec une civilisation extraterrestre dont on ne savait pas grand-chose et dont on arrivait à récupérer les signaux, à projeter la personnalité qu'il représentait et à l'incarner dans un monde virtuel. Et après, quand on l'incarne dans un monde virtuel, on peut choisir un avatar comme on a envie et en faire quelque chose de très humain ou de très animalier, mais quelque chose... sur lequel on a au moins le contrôle de la forme physique, et ça simplifie la communication. Il y a plein d'autres manières d'imaginer qu'on construise une communication sans avoir des espèces de copies déformées d'êtres humains. Moi, j'ai joué aussi avec l'idée dans une nouvelle qui s'appelle « Question de mode », où en fait, l'humanité se prépare à l'arrivée d'une civilisation extraterrestre en acceptant de se dépouiller un peu de son apparence humaine habituelle et où tout le monde, et ça devient un phénomène de mode parce que ça n'est pas compris dans son principe par tout le monde et c'est traité par les médias sous un mode qui en transforme un peu le principe, mais tout le monde joue à devenir assez épouvantable, effrayant de diverses manières, de manière à ce que les extraterrestres puissent arriver. Il s'agit de préparer leur arrivée et de faire en sorte qu'ils puissent arriver sans qu'ils choquent personne et sans qu'on leur mette tout de suite la main dessus pour que le contact puisse avoir lieu.
Merci. J'ai envie de lire un autre extrait d'un livre donc de Christian Léaurier, « Mille fois mille fleuves », qui fait partie de la série « Landmark ». Je m'appelle Stern. Niguin m'a dit que tu souhaitais me rencontrer. Je restais là, les bras ballants, à le regarder. En cherchant à rencontrer les étrangers, c'est lui qu'en fait je voulais revoir. Il attendait, passion, que je retrouve mes esprits. Je faisais un effort désespéré pour trouver quelque chose à dire. Il daigna enfin venir à mon secours. Puis-je m'asseoir ? Sans attendre ma réponse, il s'installa dans un fauteuil de cuir tressé. Il ne faut pas m'en vouloir si je manque aux usages. Je viens d'un pays lointain. Comment se conduire en présence d'une femme admise à partager la nourriture d'un dieu ? N'eût été son regard, je l'aurais cru naïf. Pourtant, il ne se moquait pas de moi, pas encore. Je devais répondre sur le même ton, avant de me laisser emporter par la douceur de sa voix semblable au chant des oiseaux. Malgré elle, il méritait moins que jamais la comparaison avec des êtres qui n'existent pas vraiment, car je le sentais peser de toute sa présence sur mon âme au point de la troubler. « Est-il exact que tu viennes du néant ?» Il sourit avec cet air indulgent qu'on adopte à l'égard d'un enfant qui profère une énormité. « Pas exactement, dit-il. Tous ces points qui clignotent dans le ciel sont des étoiles semblables au soleil qui éclaire ton monde. Autour de certaines d'entre elles gravitent des planètes identiques à celles-ci. L'une d'elles m'a vu naître. » La nostalgie de son regard m'illusionna un instant. Je fus à deux doigts de le croire. Mais il ajouta « Ma planète est si lointaine que, même à une vitesse proche de celle de la lumière, il faut plusieurs décennies pour arriver jusqu'ici. Mes compagnons et moi avons dormi tout ce temps. » Je me levai, exaspéré. Il parut surpris de ma fureur. Croyait-il pouvoir se gausser impunément de moi ? Et s'il disait la vérité ? Mais non, c'est impossible. La lumière ne saurait avoir de vitesse. Elle est l'immobilité parfaite. L'eau éteint le feu. Celui-ci, au contraire, ne peut au pire que transformer l'eau, car elle est la vie, le mouvement, elle est ce qui est. Le feu détruit, il est la négation du temps. Telle est la leçon des anciens que murmurent les gardiens aux épouses du fleuve. Mais comment le vieux saumon, qui est sagesse, accepterait-il un homme de mensonge sous son toit? Alors, Christian Léaulier, ce qui est intéressant dans la série de Landmark, c'est que les planètes sont peuplées, il y a de nombreuses planètes peuplées par des extraterrestres, mais ces extraterrestres sont tous humains. Et quelle est l'idée qui est derrière? Est-ce que les extraterrestres nous ressemblent? Sont-ils comme nous?
Non, alors, en fait, il y a deux choses. Premièrement, il fallait répondre à la difficulté que l'on a évoquée, qui est qu'effectivement, la plupart du temps, les extraterrestres que l'on trouve dans les romans sont des hommes plus ou moins déguisés. Ils ont en tout cas nos catégories de pensée. Il y a très peu de romans où on a imaginé des catégories de pensée différentes. À tel point que lorsqu'on essaye de le faire, on ne peut le faire qu'en creux. C'est-à-dire, on est face à un artefact, face à une trace, et on essaye de comprendre ce qui s'est passé, mais on n'arrive pas à communiquer. Tout à l'heure, c'était intéressant parce que le point de départ, c'est ça qui a été évoqué. C'est effectivement comment on rencontre un artefact et on essaye d'imaginer. Voilà. N'empêche qu'à un moment donné, le mot langage a été prononcé. C'est-à-dire qu'on estime qu'une vie intelligente ne peut fonctionner qu'avec un langage, quel qu'il soit, hein, pas forcément un langage articulé. Mais, bon. Donc on est constamment ramené à nos propres catégories de pensée. Donc, moi, j'ai pris, peut-être par paresse, le parti pris inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous intéresse dans l'extraterrestre, c'est finalement qu'il est différent, c'est l'étranger. Donc, j'ai poussé le raisonnement jusqu'au bout en disant, mais après tout, pourquoi est-ce que l'étranger, ce ne serait pas l'autre homme? D'où le cycle de Landmark où effectivement toutes les planètes que rencontrent les contacteurs issus de Landmark, bon, il y a que des extraterrestres hein, puisqu'il n'est pas question de la Terre dans mon cycle, se trouvent confrontés à une anomalie réelle au point de vue de la logique biologique, qui est qu'ils trouvent des hommes semblables à eux ou assez semblables à eux. Et pour compliquer le tout, les structures linguistiques sont également les mêmes. Donc il y a quelque chose qui est parfaitement illogique. Ça se résolvera à la fin.
Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir choisi le point de vue des extraterrestres dans ce livre, par exemple. Alors, est-ce qu'il vaut mieux choisir le point de vue de l'homme qui va chez l'extraterrestre ou de l'extraterrestre qui voit l'homme arriver? Enfin, pourquoi ce parti pris?
Ben, en fait, parce que je pense que la démarche, en réalité, lorsque l'on met en scène des extraterrestres, hein, ou des gens qui sont dans une culture, une civilisation complètement imaginaire et différente, le but est de nous renvoyer à nos propres catégories mentales, à nos propres présupposés, et essayer de comprendre comment nous fonctionnons. Donc, que l'on adopte l'un ou l'autre point de vue, l'essentiel, c'est d'arriver à ce résultat. Effectivement, dans le cycle, tantôt, je me place de côté des Landmariens, ceux qui nous ressemblent le plus, tantôt du côté des autochtones, puisque tout le cycle est basé sur la visite d'une planète par des Landmariens.
J'ai l'impression, en quelque sorte, que chaque auteur, finalement, a ses propres extraterrestres et que la conception chez Jean-Claude, c'est celle d'un extraterrestre gigantesque, chez Christian Léaulier, d'un extraterrestre qui nous ressemble. Alors, je pense qu'effectivement, peut-être Farid pourrait nous donner...
J'ai envie de réagir là, par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, l'effet miroir, oui, évidemment, hein, c'est constant. Et par rapport à ce que M. vient de dire, effectivement, comment échapper à nos catégories de pensée? Mais je pense que même dans l'effet du piccata dont vous avez parlé, enfin de la ressemblance à l'identique, on n'échappe pas non plus, je vous embête un peu, mais à nos catégories de pensée. Dans cette,
non, absolument.
C'est ça.
Non, je suis bien d'accord.
Le jeu était là, justement. Ouais. Et l'autre remarque en vrac, c'est sur la question du gigantisme et de la petitesse. Ça revient en permanence hein, dans l'histoire de la SF ou dans l'histoire de la littérature extraordinaire. Hein, évidemment, on pense tout de suite à Swift hein, oulipusiens. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que, et là, moi, je me fais le chantre et le défenseur d'une certaine pensée anthropologique qui défend, on va dire, l'existence des grands archétypes et des grandes symboliques, des grands schémas qui structurent l'imaginaire, c'est que dès la naissance de la science-fiction, on a affaire à des géants qui sont eux-mêmes des avatars de créatures qui viennent de la mythologie, en particulier de ces autres histoires extraordinaires qui font le sel de l'histoire mythologique. On pense évidemment au cyclope d'Ulysse. L'autre remarque, c'est que par rapport à ce que j'ai entendu, c'est que chaque auteur a son extraterrestre. Avec mon camarade co-auteur Yves Bosson, avec qui on a fait le dictionnaire visuel, on a trouvé une image qu'on a mis dans l'introduction qui correspond exactement à ça. Parce que c'est une image tirée d'un pulp anglais, Galaxy Fiction, des années 55-56, où on voit deux ingénieurs qui sont en train de s'engueuler, l'un avec un bras, l'autre avec une tête, et ils sont en train de construire une sorte de monstre extraterrestre, alien, dans une sorte de laboratoire qui serait d'une certaine façon le laboratoire de la fiction, si on peut dire. Et souvent, moi, quand je lis ou je vois des films où la figure de l'extraterrestre intervient, j'ai souvent l'impression qu'effectivement, c'est un personnage en kit. Et c'est ça qui est extraordinaire, justement, pour des auteurs, c'est qu'ils peuvent avoir une gamme très variée, une sorte de grand éventail comme ça, très large, dans laquelle ils vont puiser et choisir toute forme de possibilités hybrides, toute forme de c'est une sorte de puzzle. Et ce puzzle, il est évidemment évocateur, il est métaphorique, il reprend d'une certaine façon la grande tradition de la fable. Et c'est le personnage qui va pouvoir être porteur d'un certain nombre de pensées, d'idéologies, ou voire aussi certaines formes d'inconscience, on va dire, culturelle. Puisque, en fonction des époques, on voit bien que la figure de l'extraterrestre va porter des valeurs scientifiques, idéologiques, culturelles, qui vont être extrêmement marquées, extrêmement fortes, et dont les auteurs ne sont pas forcément toujours conscients. De la portée idéologique de ces figures-là.
En somme, si je comprends bien quelque part, les extraterrestres nous révèlent des choses sur nous-mêmes.
Oui, c'est ce que je disais, c'est l'effet miroir. Et ce miroir, il est vraiment polyphonique, c'est-à-dire que c'est un miroir qui n'est pas un. C'est à la limite, chaque auteur a son miroir. Et ça, c'est vraiment passionnant, parce que justement, c'est ce qui fait que aussi, effectivement, la science-fiction est une pensée philosophique, est une pensée métaphysique, parce que dans la configuration qui est donnée de l'autre, dans chaque roman d'auteur, il y a une pensée anthropologique, il y a une pensée anthropomorphique, il y a une pensée, et il y a aussi la défense de quand Madame parle de vestiges. Il y a aussi un positionnement dans le temps, c'est-à-dire qu'on va sur la grande échelle chronologique culturelle, on va situer aussi, d'une certaine façon, on va apporter une forme de point de relativisme de l'humanité, et c'est ce qui fait d'ailleurs, bon ça c'est pareil, hein, c'est une permanence hein, dans l'histoire du récit métaphorique, on va dire, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer, on va relativiser notre existence dans le monde. On va porter, et cette relativité-là, à mon sens, hein, là c'est personnel, est source de liberté, de créativité. Elle répond en fait à la définition de l'imaginaire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand Gaston Bachelard dit que l'imaginaire est ce qui nous sort du présent, est ce qui nous rapporte plus à la réalité parce qu'il nous sort du présent tout en nous mettant encore plus dans le présent, ou quand Baudelaire dit que l'imaginaire, dans son célèbre texte hein, sur la reine de la... sur son texte de sur le salon de 56-59, je ne sais plus, mais où il dit que en fait, l'imaginaire est une porte sur l'infini, le personnage de l'extraterrestre va justement incarner cette possibilité-là de façon sous-jacente.
Alors j'ai envie de poser une question aux auteurs ici présents. Pourquoi vous mettez en scène des extraterrestres dans vos récits? Quel est le but? Est-ce que c'est juste raconter une histoire, ou est-ce que c'est faire œuvre de philosophe, d'apporter un point de vue sur l'humanité, votre point de vue? Qui veut répondre?
Laurence.
Alors, moi, j'ai toujours été fascinée par l'altérité. Et j'essaie d'explorer un moyen de parler de l'altérité à travers ce bouquin, à travers Vestie, justement. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, c'est-à-dire l'autre. Comment l'autre ? Est-ce qu'il pense seulement ? Est-ce qu'il s'exprime de la même façon ? Est-ce qu'il sent ? Est-ce qu'il est intellectuel ou pas ? Et tout ce qui est différent, en fait. Donc c'est un peu... C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée.
C'est dans un esprit scientifique ou...
Pas forcément.
Non ?
Non, parce que justement, le sujet, je pense, n'est pas traité d'une façon scientifique. Enfin, dans la première partie du livre, oui. En fait, dans les deux autres parties du livre, en fait, justement, on est obligé d'abandonner la science pour pouvoir communiquer, en fait, avec cette altérité, en fait, ce mode de pensée, ou justement pas de pensée, peut-être. Ça passe par un autre moyen de communication qui n'est peut-être pas forcément la pensée. Donc c'est ça que je trouvais intéressant. Voilà, c'est pour ça. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Donc si c'est pas des extraterrestres, c'est l'autre, en fait. Depuis toute petite, à la base, c'était pas des extraterrestres, c'était la différence. Je mettais en scène des personnages qui étaient différents. Et... comment est-ce qu'il faut se mettre dans un moule, est-ce qu'il faut garder sa différence, et puis c'est des thèmes qui m'ont toujours fasciné, donc et là je m'en donne un cœur joie en fait avec Vestige, parce que c'est vraiment un terrain privilégié pour explorer ce genre de problématiques. Voilà.
Jean-Claude, c'est aussi l'altérité qui vous intéresse, vous interpelle?
Oui, certainement, mais il y a aussi le fait que les extraterrestres sont là, je dirais. Quand j'écris une histoire, on est entouré de tout un tas de choses incompréhensibles. Quand on fait de la plongée sous-marine, on voit tout un tas d'objets, d'animaux, d'éléments dont on se dit qu'il n'y a a priori aucun rapport, même ne serait-ce que sensoriel, avec ces animaux-là. Il y a une chose, par exemple, que je peux dire qui est assez évidente, c'est que pour moi, il y a ce qu'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger. Je veux dire de façon extrêmement primaire, mais c'est à un moment donné un de mes personnages qui lui dit dans une nouvelle, qui dit pour lui un extraterrestre, il le discute en fonction de est-ce que j'ai envie de planter les dents dedans et savoir quel goût il a, là c'est qu'un petit bout, ou pas. Et pour avoir fait de la plongée sous-marine et pour avoir collectionné les fossiles quand j'étais petit, je sais qu'il y a eu dans les différentes époques de l'humanité et à tout un tas d'endroits des êtres vivants dont je sais qu'ils sont vivants, dont j'ignore jusqu'à quel niveau ils sont conscients. Près de qui je ne mettrai pas les dents. Voyez. Alors qu'a priori, tous les membres de ma propre espèce sont des gens avec qui je n'ai aucun problème à aller me frotter et faire un bisou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, dès qu'on sort de cette zone de confort-là, on est dans quelque chose qui devient intéressant.
Qui c'est qui avait écrit Comment servir l'homme?
Oui. L'homme est-il bon?
C'est Daniel Kais.
Daniel Kais, ah oui.
Non, Damon Knight. Hein?
Damon Knight. Damon Knight. Ah, voilà. Un peu penser à ça, justement.
Descartes.
Donc, servir dans le sens comment bien l'apprêter pour le manger, en fait. Ça fait penser à ça. Oui, et puis, Sylvie, l'aider par rapport à l'altérité. J'ai l'impression que c'est aussi un thème abordé.
Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très rigolo à utiliser, c'est le sentiment d'étrangeté. C'est pas tout à fait la même chose que l'altérité. C'est pas forcément quelque chose de terrifiant non plus, mais c'est une manière de produire cette espèce de vertige dont on parle souvent dans les milieux de l'imaginaire et qui est quelque chose qu'on apprécie particulièrement. Et jouer avec l'idée de l'étrangeté, c'est un jeu passionnant. On parlait tout à l'heure du langage. Moi, j'ai joué avec l'idée de l'étrangeté avec le langage, en inventant un langage qui était basé sur l'émission d'odeur. Donc, avec, comme dans la construction du langage, différents niveaux, avec l'équivalent des syllabes ou des formes les plus élémentaires qui étaient de simples molécules, et puis qui se combinaient dans des formes de plus en plus élaborées, avec l'équivalent d'une syntaxe, mais qui n'était pas complètement temporelle, qui était basée sur d'autres logiques, et qui pouvait aller jusqu'à la construction de messages extrêmement complexes en évoquant finalement des choses qui sont des objets très élaborés. Et c'est tout à fait fascinant d'essayer d'imaginer comment on véhicule des messages avec ce principe-là. En l'occurrence, les messages ne s'adressaient pas à des êtres humains parce qu'ils auraient été bien incapables de les décrypter, mais c'était une manière de raconter une forme de symbiose possible entre deux races qui maîtrisaient cette forme de langage et entre lesquelles les échanges étaient tout à fait étranges de notre point de vue. Donc voilà, un joli jeu possible.
Juste un mot. sur la question de l'étrangeté, on parlait de différences tout à l'heure et de différences catégoriques, on va dire. Hein. On a aussi des extraterrestres dont l'étrangeté est vient du fait qu'ils nous ressemblent totalement hein, aussi. Et qu'il y a juste une petite différence qui va faire. Ben évidemment, on pense à la série Les Envahisseurs, où il y a juste le petit doigt qui est levé comme ça, qui symbolisait la différence, justement. Mais on a plein d'autres exemples comme ça, où aussi des extraterrestres qui peuvent prendre la forme, de se métamorphoser, la métamorphose en être humain. Et qui, je pense les métamorphes. C'est dans le film de Carpenter, The Thing, qui reprend où on a ce principe-là. Et cette étrangeté, elle peut être aussi. Alors, on revient à l'idée du miroir. Hein, et donc, l'altérité, elle est complexe finalement, puisque l'altérité, ça peut être aussi l'identique.
Oui, d'ailleurs, cette chose amusante que plus l'extraterrestre nous ressemble, plus il est hostile en général.
Oui, c'est ça.
Il est déguisé.
Hyper truqué.
À croire que le danger vient de nous-mêmes.
C'est la question qu'on peut se poser.
Vous avez rencontré l'extraterrestre et c'est nous. C'est dans un comics américain. Mm-hmm.
Voilà.
L'extraterrestre,
au fond, n'est-il pas nous, c'est ça
Je pense à dans les chroniques martiennes de Bradbury, il y a à un moment donné, il y a la famille qui arrive sur Mars et il y a le petit garçon qui dit à son père, c'est une famille, ils viennent de débarquer, je crois, enfin, de mémoire. Hein. Et puis il y a un petit garçon qui dit, papa, tu m'avais dit qu'on allait voir les martiens, ils sont où, s'il te plaît, les martiens, montre-moi les martiens. C'est... Et le père, il y a une flaque d'eau. Et le père, hein ?
C'est un canal.
Ah bah oui, c'est un canal. Justement, sur Mars. Enfin, vous rappelez, c'est ça. Hein, et le père lui montre la surface. Et la famille se reflète et lui dit, bah, voilà qui sont les martiens.
C'est
effectivement.
Si, je crois. Si, mais est-ce que c'est le sens maintenant ? C'est vous les martiens.
Oui. Ça reste énigmatique hein, de mémoire, je crois.
Maintenant, c'est nous les martiens, parce qu'ils ont disparu définitivement.
Ah oui.
Alors, des extraterrestres, à ma connaissance, on voit ça que dans des récits de science-fiction. En littérature générale, je n'en ai pas beaucoup vu. Enfin, je ne crois pas. Alors, est-ce que justement, je ne sais pas comment combiner ma question, mais la science-fiction serait-elle pas justement une forme de récit philosophique actuel ou de réflexion sur nous-mêmes plus poussée qu'un récit traditionnel, enfin, je ne sais pas comment qualifier littérature. Je sais pas.
Oui. En fait, la science-fiction présente les deux caractères. C'est effectivement, d'abord, science-fiction, c'est rarement scientifique, hein, faut dire ce qu'il y a. Mais en revanche, c'est très souvent philosophique. C'est une réflexion sur nous, sur notre environnement, etc. Mais c'est aussi de la fiction, c'est-à-dire c'est aussi un moyen de s'amuser. Alors, pour les auteurs, très clairement, essayer de créer un extraterrestre ou de créer un monde, c'est très amusant. Hein. Bon. Et on espère que le lecteur va s'amuser aussi en lisant. Et pour le lecteur, c'est aussi un moyen d'avoir une aventure. Donc, je pense que c'est l'essence même de la science-fiction que de relier ce plaisir de l'imaginaire à une réflexion sous-jacente.
Je pense qu'une grande partie de la littérature générale travaille autour de deux questions qui sont qui sommes-nous en tant qu'individus et toutes les approches psychologiques qu'on peut avoir sur la manière dont nous ressentons et le rapport au monde d'un individu. Et puis il y a aussi toute une partie de la littérature générale qui s'interroge sur quelle société sommes-nous, avec une dimension plus politique ou sociologique. Mais il y a une chose que la littérature générale ne fait jamais, c'est de se demander ce que c'est qu'être humain, ce que c'est que l'humanité. Et c'est justement, il me semble, la seule manière de poser la question de l'humanité, qui est fort différente des deux précédentes.
Oui, enfin, Oui, moi je me suis posé la question par rapport à l'interprétation de la réalité, justement. C'est aussi une question purement philosophique, c'est-à-dire comment une autre espèce interpréterait le monde dans lequel nous vivons, enfin l'univers. Donc c'est ces questions-là que je me pose dans le bouquin. Et la question de la compréhension des choses qui nous entourent, c'est-à-dire de l'univers, des forces, des constantes, etc. Est-ce qu'un cerveau différent comprend les constantes de la même façon que nous, par exemple? Est-ce que la perception est la même? Donc ça, c'est des choses, on peut dire que c'est des choses philosophiques, si on veut. C'est lié à la perception, c'est-à-dire à l'interprétation, toujours, genre, il y a toujours l'interprétation et la perception. Donc voilà, c'est comme ça que j'utilise. Mais c'est clair que, en fait, c'est des questions qu'on se pose, c'est des questions que je me pose moi, dans ce bouquin, et que je mets en scène dans ce bouquin. Donc effectivement, c'est des questions qui sont essentielles, en fait, pour moi, et qui sont parfaitement traitées dans le cadre de la science-fiction.
Oui, tout à fait, je suis d'accord. parce que personne ne te l'avait dit, en fait. En fait, il y a aussi, bon, bah, évidemment, sur la question de la perception, il y a l'extraterrestre, et comment l'extraterrestre peut penser l'autre. Alors, puis évidemment, tout le champ de la question, enfin, des mondes parallèles, et de la quatrième dimension, etc., aussi, qui pose la même problématique. Finalement, si on passe à d'autres dimensions, comment la perception, il y a une altérité là qui est plus le domaine de la perception métaphysique. Il y avait un dessin rigolo dans un pulp américain, je ne sais plus si c'est Astounding Story ou Amazing Story, où on voyait des extraterrestres en train d'essayer de représenter les hommes. Alors il y a une espèce, ils sont ensemble, ils sont à côté d'une grande lunette qui est projetée sur la Terre. Et en fonction de l'étude de la planète Terre, ils font une sculpture qui est censée être la nôtre. Alors comme ils voient qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre, forcément, les êtres sont au moins des amphibiens et avec des mains palmées. Puis comme ils voient qu'il y a énormément d'aliments, de créatures, etc., ils nous font très gros parce qu'on doit très bien manger, forcément, etc. Et ça, c'est assez rigolo parce que le miroir, là, on tombe dans un deuxième degré sur la question du miroir. C'est-à-dire comment les extraterrestres vont penser les hommes à partir de leur logique et de leur degré d'observation. Mais ça revient à ce que tu disais sur la question de la perception. C'est-à-dire qu'on va rentrer sur un territoire qui va être le territoire d'une altérité, cette fois-là, non pas du personnage en tant que figure, mais de l'altérité de la conscience. Enfin, en tout cas, de la définition de qu'est-ce que c'est l'espace, qu'est-ce que c'est le temps, etc. Donc, et c'est bien grâce, même si c'est par transitivité d'une certaine façon, c'est bien grâce à la figure de l'extraterrestre qu'on en arrive là. Donc là, il y a une belle mise en perspective philosophique, pour revenir sur le terme philosophique, qui est vraiment très intéressante, parce que par le biais comme ça, justement, de cette figure-là, on en arrive à des questionnements auxquels on ne serait peut-être pas arrivé.
Moi, j'ai une question à poser à l'historien de l'extraterrestre, de quelque sorte. Est-ce que l'extraterrestre est toujours le même à travers les époques, ou est-ce que son image change?
Ah non, justement, il change, ça change. Il y a vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment des couches successives. Hein. Je ne peux pas déplier l'histoire, là, parce que ça serait un peu trop long. Mais pour donner un exemple très, très concret, l'extraterrestre est le miroir de nos habitudes culturelles, de façon de penser. C'est un miroir sociologique. Vraiment à la grande époque de l'empire colonial français, occidental, la fin du 19e, au tournant du 19e et du 20e siècle, vous avez des analogies frappantes entre la façon dont, dans ce qu'on appelle la science-fiction archaïque, vous avez des analogies frappantes entre les représentations qu'on retrouve dans ces journaux, dans ces revues, etc., et puis les iconographies coloniales. Je vous donne un exemple très concret qui m'a frappé parmi d'autres. Vous avez dans la presse de la fin du 19e, très fréquemment, vous connaissez cette image d'Épinal, le héros civilisateur avec son casque blanc et son short, etc., qui va dresser l'Africain ou l'Asiatique. Vous avez exactement la même image du terrien qui débarque sur la Lune et qui se retrouve à l'identique que dans un pays arabe ou un pays asiatique, on est encore dans des schémas, hein, là, évidemment, qui se retrouve dans une nuée d'êtres, de petits êtres qui l'agrippent, et qu'il va remettre en ordre en les bastonnant à coups de fouet. Bon, ça c'est... Quand vous avez dans... Mais des exemples comme ça, on en a trouvé des kilos. Quand vous avez par exemple, dans, mais même dans le cinéma, le premier film de science-fiction qui est le Voyage sur la Lune de Méliès, quand il y a un extraterrestre qui revient avec eux, qui est embarqué de façon malencontreuse et qui revient sur Terre, à la fin du film, il va faire une sorte de danse, un peu pantalonnade comme ça, et qui rappelle exactement, et je sais parce que j'ai travaillé sur l'iconographie coloniale, qui va faire penser exactement aux pseudo-représentations exotiques qu'on avait dans les expositions coloniales ou dans les expositions universelles. Et il va même, comme c'est le roi, je crois, en plus de la Lune, il va, et ça c'est, on le retrouve même dans Tintin, hein, c'est-à-dire cette image de la monarchie caricaturale, le nègre africain, hein, avec un costume trop grand pour lui, un chapeau haute forme, qui parodie et qui imite l'occidental. Bon, là, il y a un glissement, si vous voulez. Bon, là c'est un exemple, hein, je vous parle de la période coloniale et de la représentation d'extraterrestres pendant la période coloniale. Mais on pourrait parler... je ne vais pas monopoliser la parole, mais on pourrait parler de l'extraterrestre angélique, de grande taille, qui à partir des années 20 débarque et nous apporte la bonne parole, et ça sera encore plus le cas pendant la guerre froide, etc. Donc l'effet miroir, il n'est pas seulement dans la question de l'individu et de la forme, on va dire, biologique, etc. Il est aussi dans le phénomène collectif, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, force est de constater que l'inconscient collectif, dont parle Jung, enfin voilà, toutes les grandes théories sur la question de l'inconscient collectif, bah, il transparaît totalement, il émerge totalement dans ce type de représentation-là. Je ne peux pas.
Oui. Est-ce que vous auriez une question à poser à notre auteur?
Présente-toi.
Laurence parle d'altérité. Bon, c'est le mot un petit peu passe-partout pour la science-fiction, c'est vrai, c'est un cliché qui est vrai. Mais il y a d'autres formes d'altérité, d'autres créatures, d'autres images de l'altérité. Il y a le mutant, il y a le robot, il y a l'androïde. Pourquoi choisissez-vous spécifiquement l'extraterrestre? Est-ce qu'il y a... Bon, vous avez un peu répondu à cette question, mais est-ce qu'il y a des possibilités plus grandes au niveau de la fiction dans l'exploration de ce motif-là que dans celui du mutant ou du robot ou de l'androïde, qui eux aussi peuvent, ont varié avec le temps, ont représenté aussi le soumis, l'indigène, etc., etc., et qui eux aussi peuvent jeter un regard sur nous, qui est le regard de l'autre? Ça, je le posais à tout le monde.
Qui veut répondre?
Qui veut répondre? Tu veux répondre? Allez.
Bon. À la différence du robot ou de l'androïde, voire du mutant, l'extraterrestre est d'emblée hôte. C'est-à-dire que le robot, c'est une de nos créations. Même si, dans certains cas, il échappe et que... et ça, c'est déjà plus de la science-fiction, d'ailleurs. On a des schémas informatiques qui sont intéressants. L'androïde, c'est la même chose. Enfin, c'est un homme mélangé, ou le clone. De la même façon, le mutant, c'est quelque chose qui vient de nous. Alors, l'extraterrestre, d'emblée, est étranger et différent. Et donc, quelque part, on est plus libre, peut-être, de... quand on travaille avec l'étranger. Et puis, l'étranger est souvent... Enfin, l'extraterrestre est souvent pris comme représentant d'une civilisation. Ce qui est plus difficile à faire pour les autres types que vous étiez.
Notre avis?
Oui, oui, c'est effectivement une question très intéressante, Elisabeth. Ce qui est certain aussi, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la notion d'humanité dont on parle tant, elle n'a qu'à peu près 2 siècles. C'est-à-dire qu'avant ça, d'abord on ne savait pas ce que c'était que l'humanité, on ne savait pas ce que c'était qu'un Chinois, on n'avait même pas l'idée que les gens qui vivaient en Australie, les aborigènes, etc., étaient des êtres humains, on n'imaginait pas les Bushimans comme faisant partie du phylum humain. Et l'idée même d'une civilisation qui soit, je dirais, terrestre, globale, était une idée totalement saugrenue. Il ne faut pas oublier qu'on a parlé d'extraterrestres dans la littérature générale, je pense à un certain Voltaire avec Megas, par exemple, où des gens qui demandaient comment peut-on être persan, parce qu'on voyait débarquer un ensemble de gens, de comportements, de coutumes, de techniques d'appariement, dont on se demandait si ces gens étaient réellement proches de nous. Et il n'y a pas besoin d'aller si loin que ça. J'ai une de mes amies qui a mon âge, qui pratique les arts martiaux, et en particulier elle fait un art martial japonais assez ésotérique, et elle est allée à plusieurs reprises, je parle dans les années 90, dans des endroits de montagne du Japon, où elle a été dans des auberges, où elle a été lavée par une servante de l'auberge, âgée, qui, en même temps en japonais, commentait le fait qu'elle était faite exactement comme les autres et qu'elle avait, semble-t-il, des organes sexuels qui étaient tout à fait ressemblants, bien que légèrement plus poilus, à ceux des filles, en disant que c'était quand même très curieux, mais bon, visiblement, ça fonctionnait à peu près pareil de l'autre côté. Et alors, elle parlait japonais et trouvait ça extrêmement drôle, et donc elle s'efforçait de garder son sérieux, mais elle était véritablement dans une situation dans laquelle, dans les années 1990, il y avait quelqu'un qui allait de l'autre côté de la Terre, il y avait des gens qui arrivaient là en disant « Si ça se trouve, c'est un être humain aussi avec lequel il est possible d'imaginer, en poussant les choses très loin, qu'on puisse s'accoupler. » Donc cette notion de humanité face à l'extraterrestre, elle est récente. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on fait le tour de ce qu'on est, et on se dit « Qu'est-ce qui se passe si je n'étais pas ce que je suis ?» Et on va plus loin. Mais l'extraterrestre, en tant que complètement radicalement différent, forme de pensée différente et forme de pensée nous obligeant à communiquer avec lui par des approches tout à fait inédites, c'est relativement récent, simplement parce que la Terre offrait suffisamment d'extraterrestres, y compris le village voisin, hein, qui a pendant énormément de temps. Et le fait d'utiliser l'artefact, c'est l'exemple qu'emploie Laurence, mais c'est vraiment une tendance de la science-fiction depuis deux décennies à peu près, c'est justement qu'à ce moment-là, l'extraterrestre n'est plus là, mais il a laissé une énigme. Et comprendre l'énigme, c'est comprendre comment il pense. C'est-à-dire qu'on déchiffre un labyrinthe, où on déchiffre une approche du monde à travers des objets, des vestiges, des ruines, qui sont des choses assez d'ailleurs fantasmatiques, parce que malheureusement on sait que les ruines, ça dure très peu de temps. C'est-à-dire que si l'espèce humaine disparaissait instantanément, là, dans peut-être 50 à 60 ans, tout ce qui nous entoure et qui donne l'impression d'être extrêmement structuré, conçu... Non ? Ben justement, on en a parlé dernièrement, en particulier les grandes villes. Les grandes villes s'effondreront.
Ça va assez vite, en fait.
Ça va très très vite. Vont s'effondrer en l'espace de trois générations, on dit 75 ans, si tu préfères. Enfin, c'est pas 600 ans. C'est moins d'un siècle. Et à ce moment-là, il faudrait vraiment avoir quelqu'un qui explore, qui écarte la végétation pour dire, tiens, il est possible qu'il y ait eu là quelque chose qui soit de nature volontaire. Donc, cette histoire de l'extraterrestre en tant que, je dirais, je sors de l'humanité, ça ne peut être que récent parce que tout simplement l'humanité est une invention récente.
Mais je constate par ailleurs que les histoires de science-fiction qui sont les plus réussies, à mon avis, sont celles où on ne communique pas avec l'extraterrestre parce que là, il continue à rester différent. Il y a deux types d'histoires avec les extraterrestres. On communique avec, on ne communique pas. On ne communique pas parce qu'ils ne sont plus là. Ils ont laissé des choses. Ou bien on ne communique pas parce que on n'arrive pas à trouver un langage commun. Et paradoxalement, ce sont ceux-là qui, moi, comme lectrice, me paraissent le plus vraisemblables. Quand on lit, même dans la science-fiction, par Caïc, mais presque, Les enfants d'Icare, d'Arthur C. Clarke, où on a une variété d'extraterrestres avec lesquels on peut communiquer et qu'on peut accuser d'être des humains avec des ailes et des cornes. Et puis il y a cette autre créature qui est le suresprit, qui est une figure de Dieu, mais bon, on considère que c'est une espèce de créature super évoluée. Et celle-là, on ne peut pas communiquer avec. Et celle-là, elle existe dans l'histoire beaucoup plus que les suzerains. Alors on a souvent accusé la science-fiction de connaître un échec perpétuel dans la description d'un extraterrestre vraisemblable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans vos propres histoires ?
Justement, je trouvais ça très intéressant. Et c'est pour ça que dans mon bouquin, en fait, on peut communiquer avec l'extraterrestre que quand on est endormi. C'est-à-dire quand on est dans un état altéré de conscience. Parce qu'en fait, au niveau... Donc ça, on le découvre petit à petit dans le bouquin, c'est-à-dire que toutes les tentatives de communication rationnelle et consciente échouent. Et parce que simplement, les humains ne perçoivent pas, en fait, qu'il y a communication. Et donc, après l'héroïne du livre, justement, ça c'est surtout dans la suite du bouquin, toute la communication se fait. Pardon ?
Ne nous en dis pas trop.
Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que la communication passe par des biais, justement, la conscience est altérée. Et à ce moment-là, elle n'est pas forcément interprétée comme de la communication. C'est interprété comme des rêves, par exemple. Alors, du coup, on se pose la question, est-ce que c'est des rêves ou est-ce qu'il y a quelque chose de réel ? Voilà, c'est la question que se pose l'héroïne. Et ça, justement, je trouve que c'est plutôt intéressant, où il y a un problème vraiment de communication. Donc,
Oui, vas-y.
En écoutant Elisabeth von Arnold, qui n'a pas voulu dire son nom tout à l'heure, mais parce que c'est une grande autrice, je pensais à L'œuvre du dragon de Robert Forward, qui est un roman de hard science qui met en scène une civilisation très très différente de l'humanité, qui est décrite de manière très sophistiquée. En plus, on voit son évolution sur plusieurs millénaires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'autres obstacles inattendus à la communication, puisque les deux espèces, l'humanité et cette espèce-là, ne vivent pas du tout dans la même temporalité. Ce qui permet d'ailleurs de raconter l'évolution d'espèces sur plusieurs millénaires, alors qu'il se passe quelques mois sur le vaisseau spatial qui s'est approché justement de la planète où ils vivent. C'est de Robert Forward, si je me souviens bien, en Ailleurs et Demain, et c'est un roman magnifique.
Merci. Je vois que l'heure tourne et que la prochaine table ronde s'approche. Je voudrais remercier tous les auteurs ici présents d'avoir parlé des extraterrestres, de la conception. Enfin, voilà. Donc, je vous rappelle que vous pouvez aller voir leurs livres ou les faire dédicacer sous la bulle du livre. Et je me réjouis de lire prochainement sous leur plume les descriptions des extraterrestres du futur que nous ne connaissons pas encore. Merci de votre attention.